19h.
RTBF Mobile Info.
On retrouve Guillaume Kerremans. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Vous nous emmenez du côté de la E411 apparemment.
Oui, parce qu'il y a là-bas un bouchon qui s'est formé cet après-midi avec le chantier à Hachen. Et donc nous avons toujours des temps de parcours assez importants, 15 à 20 minutes pour franchir ce trafic perturbé sur 3 km. Pour vous qui passez peut-être en ce moment, Custine, Hachen direction Namur. Restez bien patients. Et puis il y a aussi toujours un petit peu de fil dans le chantier de l'autoroute 40, mais ça s'améliore à l'approche de Walkenrad. Encore 4 km ralenti, 5 minutes perdues vers l'Allemagne et puis véhicules dégagés aussi sur le ring de Bruxelles. Il reste un petit peu de fil. C'était juste avant le viaduc de Vilvoorde. Vous retrouvez toutes les voies de circulation.
Vos messages mobilité 0800 48 400.
Votre émission avec Diamante, carottage, sillage, ponçage du béton, soutien de la Belgian Motorcycle Academy.
RTBF Classic 21. You rock.
C'était Sting, One Fine Day.
Classique 21, sport moteur.
Avec Dominique Dricot.
Bonsoir, bienvenue dans notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité des sports mécaniques et à la mobilité. L'actualité ce week-end, c'est notamment l'ouverture du championnat d'Europe d'endurance avec ces GT3 qu'on verra à l'œuvre du côté de Francorchamps en fin juin. Et pour en parler, Olivier De Wilde. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous.
Olivier, on rappelle, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi papa de pilote. Donc, à défaut d'être au Castellet, j'imagine que vous êtes vissé devant votre écran pour suivre cette course qui a l'air passionnante et qui a démarré de manière plutôt tonitruante, là, avec un accident dès le départ.
Oui, tout à fait. Beaucoup de frayeurs. J'ai suivi ça en direct depuis Dijon. Je suis là pour la Sun Cup et effectivement, j'ai eu très peur pour Hugo puisqu'il a dû éviter l'accrochage qui s'est passé juste devant lui.
Oui.
Donc à un moment, j'étais plus sûr qu'il était en course. J'ai tout de suite téléphoné à sa sœur qui est sur place, elle, chez WRT. Oui. Elle m'a dit non, il a dû éviter l'accident. Il a perdu quelques places, mais il est toujours en course et il n'a pas été impacté, heureusement. Il vient de terminer son relais maintenant et il a fait un très bon stint. Ça se passait très bien sur la fin. Il use pas trop ses pneumatiques et donc on voit souvent qu'en fin de relais, il est très rapide par rapport aux concurrents devant lui.
Ouais, il est doué, hein, ça c'est évident. Et ben, j'imagine que vous savez pourquoi il est passé de WRT au team allemand Row, où manifestement il est aussi à l'aise apparemment.
Oui, disons qu'il devait un petit peu choisir entre quelque part. Après, il est pilote officiel BMW. D'abord, oui. C'est pas tout à fait lui qui choisit. Donc BMW, vous savez qu'ils ont deux teams officiels, WRT et Renvé. Et donc, en fait, il avait un petit peu l'idée. Il a une discussion entre soit rouler avec Valentino Rossi sur la 46, qui était une option, soit passer chez Rové.
D'accord.
Et bon, au bout de la discussion, ils ont plutôt décidé qu'ils voulaient aussi faire une sorte de junior team parrainé par Jens Klingmann, qui est le pilote de développement de la marque, qui est plus âgé, lui, et qui doit former un petit peu les deux jeunes, Hugo et le nouveau Tim Kramnitz, qui vient de la Formule 3, un petit peu comme ils l'ont fait avec Dan Harper et Max Hess, qui sont maintenant justement les équipiers de Valentino Rossi,
oui.
Et qui étaient des juniors il y a quelques années, et qui maintenant sont des pilotes vraiment titulaires et confirmés, qui mènent les championnats en IMSA et ici en GT World.
Bien. Alors, ben, parlons de cette course. Hein, grosse frayeur, comme vous l'avez dit au départ, avec pas mal de voitures dans le décor. 58 bolides au départ hein, de ces 6 heures du Castellet qui ont démarré à 18 heures. Ça, c'est quand même assez original comme départ, comme heure de départ. Et puis, ben, j'ai remarqué en tout cas que dans la première heure, un de nos compatriotes se débrouillait très très bien. C'était Maxime Martin qui a été longtemps troisième, je crois.
Oui, tout à fait. Excellent départ des Mercedes et de Maxime, qui avait fait une très bonne qualif déjà. Alors c'est vraiment le jour et la nuit pour Maxime, que tout le monde sait qu'il a changé de team. Et aujourd'hui, alors qu'il a eu la saison peut-être la plus noire de sa carrière l'an dernier, cette année, tout va bien pour lui. Un superbe début de saison. On l'a vu sur le podium à Daytona. Il a gagné Bathurst.
Oui.
Il s'est encore illustré, je pense, au Nürburgring. Et ici, maintenant, voilà, il est troisième pour l'instant, je pense, de la course. Donc, voilà. Certains ont pu penser un moment, tiens, est-ce que Maxime ne devient pas un petit peu vieux? Il a 39 ans, hein, donc c'est déjà plus un jeuneau. Mais pas du tout. Il a toujours sa pointe de vitesse. Et quand on lui donne une bonne voiture performante, eh bien, il est là. Ça fait plaisir, évidemment, de voir les couleurs belges bien représentées. Et puis, il n'y a pas que lui. Charles Weir, c'est toujours...
Oui.
On sait que Charles Weir avait gagné l'année passée. Je pense que Kelvin van der Linde lui a ramené la voiture à la 6e place. Donc, cette voiture est toujours en lice pour la victoire. On sait aussi que les BMW vont aller de mieux en mieux quand il y a moins de chaleur. D'abord à cause des moteurs turbo. Et puis... les pneumatiques qui fonctionnent mieux de nuit. On l'a déjà vu hier aux essais libres. Et donc, BMW espère remonter dans la hiérarchie au fur et à mesure que le jour va tomber et qu'on va commencer à rouler à l'allure des stars.
Oui, très bien. Alors, un petit mot, même si vous n'êtes pas là, mais j'imagine que vous êtes intéressé à cette participation étonnante, hein, il faut bien le dire, et de dernière minute, de Lance Stroll. Si je regarde bien, ils doivent être 19e pour le moment, mais j'ai été étonné que ce ne soit pas lui qui prenne le départ. Vous avez une explication à ça?
Moi, il est peut-être plus habitué à prendre des départs en F1, vu qu'il a eu quelques forfaits. Non, en fait, aucune idée. Je sais qu'effectivement, en fin de relais, Hugo a fini juste son relais d'ailleurs derrière l'Espagnol Boya, qui est l'équipier de Lance Stroll. Alors évidemment, c'est super sympa. Je pense qu'il y a peut-être un effet Max Verstappen, qui, vous le savez, évidemment, a commencé à rouler en GT3 sur le Nürburgring. Il s'amuse beaucoup. On sait que la F1, pour l'instant, est fort décriée avec les systèmes, les moteurs à moitié électriques. Et les pilotes veulent venir prendre du plaisir ailleurs, dans un championnat où on se bat à coup de dixième, à coup de portière. Et je pense qu'il y a un peu cet effet-là. Lance Stroll, on parle beaucoup de Max Verstappen, mais il n'arrête pas depuis le début d'année. Il a dit que la voiture, la F1 actuelle, la Aston Martin qu'il pilote, c'est la pire voiture qu'il ait jamais conduite de sa carrière. Et donc, je crois qu'il vient prendre un peu du plaisir. Il faut savoir que ces pilotes, même s'ils sont en Formule 1, le sport automobile, avant d'être un métier, je pense que pour tous, c'est une passion. Bien sûr. Donc, voilà, ça se voit là. Et ça peut en attirer d'autres, j'espère. Il y a d'autres pilotes. J'ai entendu Pierre Gasly qui parlait aussi qu'il aimerait bien faire les 24 heures de Nürburgring. Donc, ça peut donner des idées à d'autres. C'est très bien pour la discipline. C'est un magnifique championnat. Avec le point d'or, ça sera les 24 heures de Spa. Pas de Max Verstappen.
Non.
Et de pilote de F1 cette année, malheureusement, parce que ça tombe en même temps qu'un Grand Prix. Mais il faudrait y penser, peut-être dans l'avenir. Si SRO veut un jour avoir Verstappen et d'autres pilotes F1 au départ des 24 heures, à peut-être essayer de voir de ne pas tomber en même temps qu'un Grand Prix.
Ah, ça serait pas mal, en effet. Bien, ben merci beaucoup, Olivier De Wilde. On vous laisse à vos occupations du côté de Dijon. Et puis, ben, on croise les doigts pour Hugo, bien sûr. Et puis, pour tous les Belges, hein, qui sont là-bas en force. Merci.
Merci à vous.
On écoutait Bill Preston, Nothing from Nothing. Alors, vous le savez sans doute, hein, la semaine prochaine, c'est le début du championnat du monde d'endurance, hein, à Imola, puisque la première course à Bahreïn a forcément été reportée à une date ultérieure. On a rencontré précisément Thierry Tassin, un des membres éminents de l'équipe WRT, qui est à la fois impliqué dans le championnat d'Europe GT3 dont on vient de parler, Castellet pour le moment, et puis qui sera à Imola, évidemment, avec deux voitures en hypercar et deux voitures en GT3. Et on a demandé à Thierry Tassin, l'ancien pilote qui a notamment remporté 4 fois les 24 heures de Francorchamps, en quoi consistait ce travail au sein du team.
Eh bien, je suis directeur sportif du programme Hypercar, donc les BMW M Team WRT. On va effectivement commencer la saison à Imola, avec le prologue le mardi et puis la course qui aura lieu le dimanche. Et mon travail en tant que directeur sportif, je suis le représentant officiel du team, je suis en contact avec les officiels, avec le directeur de course, avec la direction de course, avec les commissaires sportifs, et j'essaye de donner les meilleurs briefings possibles aux ingénieurs aux pilotes ainsi qu'à tous les mécaniciens, et le règlement change régulièrement pendant la saison, donc il faut tenir ça à jour, faire des briefings réguliers et essayer, parce que ce sont des courses d'endurance, 6 heures à Spa-Francorchamps, 6 heures à Imola, où il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible. Et chaque erreur, eh bien, elle est pénalisée par la direction de course. C'est soit 5 secondes additionnées au prochain pit stop, ou 10 secondes additionnées, ou un drive-through. Évidemment, ces erreurs vont empêcher de faire un bon résultat et de terminer sur le podium.
Pendant la course, on vous voit en combinaison unifusée. Vous êtes au muret, mais vous faites quoi à ce moment-là? Vous ne lisez pas le règlement?
Non, non, non. Alors là, je suis en contact donc, avec un casque et je suis en contact avec la direction de course, mais j'écoute donc, bien sûr, les deux voitures, les pilotes des deux voitures, les ingénieurs qui parlent, parce qu'on a à chaque fois un ingénieur course qui parle au pilote. Il y a généralement une seule personne qui parle au pilote pour ne pas avoir des voix différentes. Mais comme on dit, dans le background, à l'arrière, il y a plein d'ingénieurs, que ce soit la stratégie ou l'ingénieur moteur ou l'ingénieur suspension et ainsi de suite. Tous ces gens communiquent. Et donc, des fois, je peux vous dire, c'est très difficile de suivre parce qu'il y a tellement de monde qui parle à la radio. Et donc, on a un intercom, on peut discuter dans différents groupes. Et il faut suivre la course, suivre les incidents. Si quelque chose se passe, on peut rapporter ça à la direction de course, expliquer brièvement l'incident pour que la direction de course étudie, voit les vidéos, voit les images, voit les acquisitions de données pour voir si ça mérite de pénaliser une voiture ou pas.
La deuxième course, elle aura lieu à domicile. Spa-Francorchamps, début mai. Est-ce que WRT sera prophète en son pays?
Oui, régional de l'étape, ben on l'espère. On l'espère. Hein. Donc, on roule tout de même avec une licence allemande. Hein. Avant, on roulait avec une licence belge. Maintenant, on roule avec une licence du DMSB. On a le drapeau allemand sur les voitures. Mais on espère faire un résultat à Spa-Francorchamps. Je ne suis pas convaincu qu'on a la voiture la plus rapide pour l'instant. Mais à Spa-Francorchamps, tout est possible. On peut très bien avoir un orage, de la pluie qui arrive, et ainsi de suite. Et on pourrait peut-être tirer notre épingle du jeu. En tout cas, on va tout faire. On va tout faire pour essayer d'être sur le podium.
Alors, on espère évidemment voir un jour un prochain une BMW WRT triompher. Mais ça ne sera pas la Brabanson sur le podium.
Non, effectivement, comme on a une licence allemande, donc DMSB, ben c'est l'hymne national allemand qu'on entendra si on est sur le podium à la première place. Mais sincèrement, j'espère qu'on l'entendra.
Ma dernière question, vous avez fait une carrière brillante dans les voitures de tourisme. Chez WRT, il y a les deux catégories. Il y a les hypercars dont vous vous occupez, il y a les voitures GT3. Est-ce que vous jetez de temps en temps un coup d'œil sur ces GT3 ou pas du tout?
Alors, on est dans la même course, mais on est tellement focalisé sur nos deux voitures en hypercar qu'on suit très peu les GT3. On suit quand, malheureusement, on a dû abandonner avec une, ou bien sûr avec deux voitures, alors on suit beaucoup plus les GT3. On suit aussi parce que dans la pit lane, elles sont juste avant ou après nous. Et donc, c'est important de savoir quand les GT3 vont s'arrêter pour qu'on ne se gêne pas lors des ravitaillements, parce qu'on peut facilement perdre 5 secondes si jamais on rentre en même temps et qu'on n'arrive pas à s'arrêter au bon endroit ou à repartir parce qu'on est bloqué par une GT3.
Yourself. We'll be right back.
yourself to blame.
This is the post.
Red and the Heroes, bien sûr, The Pulse. Allez, cette fois, on va du côté de Tilt rejoindre Yves Maton. Bonsoir Yves.
Bonsoir Dominique.
Yves Maton, vous êtes l'homme aux multiples casquettes, hein, mais j'imagine que vous avez observé attentivement la course qui s'est déroulée aujourd'hui, hein, ce samedi, à l'occasion du TAC Rally, manche du championnat de Belgique, avec une victoire méritée, j'ai l'impression, de notre ami Maxime Potti, hein, qui a tenu bon d'un bout à l'autre.
Oui, il fait un très beau rallye, un retour en forme de Maxime après quelques rallyes en demi-teinte. Il a tout de suite fait un très bon choix de pneumatique, ce qui l'a aidé dans la première boucle. Et puis il a continué sur le même rythme pour aller chercher cette belle victoire.
Oui, parce qu'il a résisté à la pression, hein, et aux attaques d'un certain Jos Verstappen et de Cédric Cherin. Verstappen termine deuxième à 7 secondes 4 et Cédric Cherin à 11,8. Donc c'est dire l'intensité de la bagarre. C'est un championnat qui s'annonce passionnant, mais je pense que la prochaine manche le sera encore davantage, parce que vous allez débarquer, vous Yves Maton, avec dans vos valises une série de Porsche 911 Rallye GT. Il y en aura combien au Rallye de Wallonie?
On peut espérer qu'on aura 8 voitures au départ.
Wow.
C'est vraiment exceptionnel. On s'était dit que si on avait 5 au premier rallye pour cette première je dirais édition d'un trophée officiel Porsche, ce serait déjà très très bien, mais des retours qu'on a des différents préparateurs, il y a beaucoup d'intérêt pour la formule.
Oui, et puis je pense que c'est un parcours qui va aller idéalement à la 911, hein, ce rallye de Wallonie. Donc vous dites peut-être 8 voitures. J'ai lu qu'un pilote français allait venir se mêler à la bagarre. Est-ce qu'on aurait encore peut-être une autre vedette étrangère?
Ouais, pour le moment, on n'est pas spécialement en discussion avec d'autres étrangers pour venir nous rejoindre, mais on aura quelques pilotes de pointe belges qui pourraient créer des belles surprises au Rallye de Wallonie. Wow. L'année passée, on avait montré grâce à Cédric Cherin que la voiture pouvait rouler devant. Il avait fait une très très belle prestation pour la première sortie en course de la voiture. Avec 8 voitures, on peut aussi espérer qu'on pourra jouer un rôle lors de ce rallye de Wallonie.
Oui, et puis c'est la musique, hein, d'abord il y a le nom forcément, la musique, le look de la voiture. Il y a beaucoup de choses extrêmement sexy autour de cette Porsche, qui ne fait pas que des heureux, hein, si j'ai bien compris. Les gens qui roulent en rallye 2 sont parfois un petit peu énervés, parce qu'ils se disent que c'est pas juste, mais bon, hein, je trouve que ça met du piment. En tout cas, bravo, parce qu'on rappelle aussi, c'est une voiture made in Belgium, hein, c'est votre collègue Lionel Hansen et ses techniciens qui ont mis au point cette voiture qui suscite un intérêt dans le monde entier, hein, on est d'accord.
Oui, je dirais que c'est Lionel qui a pensé, grâce à son implication en circuit, notamment avec ce type de voiture, que ça pouvait faire une bonne voiture de rallye, qui a développé un kit pour transformer une voiture de circuit en voiture de rallye avec à la clé un très très bon niveau de performance et puis surtout un énorme intérêt aussi du public puisque, comme vous le disiez, c'est une voiture qui chante, c'est une voiture qui plaît. Et donc, c'est pour ça qu'on a pu, grâce au niveau de performance montré, l'attrait aussi en vendre, on en a vendu en Australie, au Portugal, un peu partout en Europe. On en est déjà à plus de 30 voitures commercialisées en un peu plus d'un an.
C'est extraordinaire, bravo à votre équipe. Allez, dernière question, Yves Maton, c'est une autre casquette que vous portez. Vous avez endossé depuis quelques semaines un nouveau rôle chez Overdrive Racing. Vous êtes team manager, je crois, c'est ça? Et vous êtes occupé des voitures officielles en rallye raid?
Oui, tout à fait. J'ai rejoint Overdrive il y a un peu plus d'un mois pour presque directement partir sur une épreuve du championnat du monde au Portugal. Une discipline que je connaissais un peu, je dirais seulement de l'autre côté de la barrière quand j'étais à la FIA. Mais qui est très, très intéressante à suivre, très, très, très pointu aussi, puisque il y a des pilotes comme Sébastien Loeb, il y a des trois constructeurs qui sont impliqués, grosse bagarre et plein de choses à apprendre pour moi dans cette équipe de Villers-le-Bouillet menée par Jean-Marc Fortin.
Mais vous l'avez dit, il y a notamment un certain Sébastien Loeb que vous connaissiez de l'époque Citroën, évidemment. Est-ce qu'on a une chance un jour de croiser Sébastien Loeb du côté de Villers-le-Bouillet dans des habits Toyota l'année prochaine, puisque Dacia ne sera plus là?
Je dirais qu'il faudrait plutôt poser la question à Jean-Marc. C'est lui qui est en charge du line-up pour l'année prochaine. Effectivement, il y a des pilotes de pointe comme Sébastien Loeb ou comme Nasser Al-Attiyah qui étaient déjà pilotes Toyota dans le passé qui vont être sur le marché. Et c'est sûr qu'il y aura certainement des négociations en cours entre Jean-Marc et ses différents pilotes.
Vous voyez, je me suis laissé emporter évidemment par mon enthousiasme et on n'a même pas évoqué le WRC avec Thierry Neuville qui est en tête de ce rallye en Croatie. C'est quand même une belle surprise, hein. On est content pour lui, même si les circonstances ne sont pas tout à fait uniquement sportives, on va dire.
Oui, c'est le mot surprise est certainement... bien présent, puisqu'on voit que les Hyundai ne sont pas performantes pour le moment, mais que les Toyota ont un peu offert, je dirais, ce leadership à Thierry, mais je veux dire, ça va certainement lui donner, s'il arrive à gagner ce rallye, de la motivation pour continuer justement à se battre et essayer de retrouver une voiture au meilleur de sa forme pour les épreuves à venir.
Vous avez une explication au fait que les Hyundai ont baissé comme ça de forme déjà l'année dernière et que ça continue de manière générale?
C'est une équipe qui joue un peu maintenant sur deux fronts, hein, puisque sous une autre marque, mais c'est la même équipe. Au final, ils vont aussi s'engager très bientôt en endurance. Et les équipes ne sont pas, malheureusement, et les personnes performantes ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, ils ont divisé un peu leurs forces. Et c'est un peu la conséquence de cela qui font que pour le moment, ils n'ont pas spécialement la voiture la plus performante du plateau.
Bien entendu, comme vous dites. En tout cas, profitons de ce moment savoureux. Thierry Neuville et Martijn Wijndal sont en tête de ce rallye de Croatie de manière confortable, hein, puisqu'ils comptent 1 minute 14 secondes et 5 dixièmes d'avance sur Takamoto Katsuta, sur la Toyota, et puis Sami Pajari, qui a crevé lui aussi, hein, qui était en tête et qui a malheureusement dû changer une roue, je pense, en spécial. Il est à 1:46.4. Donc voilà, il reste évidemment les spéciales de demain. On croise les doigts pour Neuville et Wijndal, évidemment, pour qu'ils ramènent cette victoire. Ça leur fera du bien au moral, on en est certain. Merci beaucoup, Yves Maton. On vous souhaite une excellente soirée et puis plein de réussite. On se verra certainement du côté de Jambes à l'occasion du rallye de Wallonie. À très bientôt.
Merci, au revoir.
Voilà. Bon, eh bien, écoutez, nous avons été un petit peu plus longs que prévu. Je tiens à remercier Alain Mab pour sa collaboration sur le plan technique. Parfaite comme d'habitude. Moi, selon la formule, je m'en vais sur la pointe des pneus. Restez avec nous, évidemment, puisque dans quelques instants, c'est Jean-Philippe Lejeune qui entre en piste avec Classique 21 Live. Rien que du bon, je vous souhaite une très très belle soirée. À très bientôt. Bye bye.
Classique 21, Sport moteur.
Salut, c'est Stoffel Van Dorn.
Bonjour, c'est Thierry Neuville.
Bertrand Baguette.
C'est Sarah Bovy et vous êtes sur Classique 21.
Bonjour, c'est Stéphane Peterhansel.
C'est Grégoire Demévius.
Bonjour à tous, c'est Jackie X.
Éric Van Le Poel.
Salut, c'est François Duval.
C'est Jérôme D'Ambrosio.
Sport moteur. Chaque samedi dès 19h sur Classique 21. Classique 21, sport moteur. Avec Fedemot, Zelos et le moniteur automobile.
Proximus présente la 5G la plus rapide, ça change tout pour votre business.
Oui, alors j'essaye de télécharger ma déclaration TVA dans le taxi, mais ça va prendre une année fiscale.
Avec la 5G la plus rapide, téléchargez maintenant jusqu'à 70 gigas pour 16 euros par mois pendant 12 mois. Info sur proximus.be/businessmobile. Proximus.